Chapitre 2. Rue de la Comète. Le lendemain, vers 8 heures, le commissaire Croiserel débarquait à la gare de Viroflay. Toute la nuit, un vent de tempête avait soufflé. À l'aube, une pluie fine et glacée lui avait succédé. « Ça change avec la Côte d'Azur, » murmura le commissaire en faisant des détours pour éviter les flaques parsemées sur le quai. Il était vêtu d'un trench-coat doublé d'une peau de mouton. Une casquette grise le coiffait. À 7 heures, sous la pluie, Viroflay n'avait rien d'attrayant. En sortant de la gare, le commissaire descendit une avenue boueuse bordée de petits pavillons d'aspect triste. La trompe d'une automobile de boulanger résonnait dans la rue déserte. De temps en temps, il croisait un passant caché sous un parapluie dont la principale préoccupation était d'atteindre la gare sans maculer par trop ses bottines. En arrivant, Croiserel avait bien songé à interroger Auguste Delaune, mais à la réflexion, il lui était apparu qu'il valait mieux commencer par se renseigner dans le pays sur les habitudes du ménage Favrin. La veille, il n'avait pu trouver trace de l'ex-cuisinier dans les dossiers de la police. Ce n'était d'ailleurs pas la première fois qu'il s'occupait d'une affaire de ce genre. Il savait par expérience qu'on finissait toujours par découvrir que la disparue coulait le parfait amour avec quelque amant dans un coin perdu de province. Pourtant, en ce qui concernait les Favrins, il avait l'impression très nette qu'il se trouvait devant un cas qui réservait des surprises. De gros nuages noirs s'étaient amoncelés dans le ciel et la pluie, un instant avant ténue comme des fils, s'alourdissait de minute en minute. Avisant un petit café, le commissaire y entra. Le patron, mutilé d'un bras, le torse moulé dans un maillot grenat, astiquait de l'extérieur le zin de son comptoir. Il tendit une chaise au client, lui demanda ce qu'il voulait boire. « Un bon café noir bien chaud, » répondit Croiserel en examinant la salle avec un certain plaisir. Elle lui rappelait cette salle d'allée de rouge, avec ses pancartes réclames, avec son horloge réclame, avec ses tables à toiles cirées clouées, avec ses chaises sous lesquelles la paille se détachait, ses cafés de l'Argonne, du Soissonnais, où, soldat au repos, il avait passé tant d'heures à chanter, à boire, à jouer aux cartes. « Eh bien, patron, » dit-il d'un ton enjoué, « ça ne vous dit rien, votre café ?» L'interpellé sourit sans comprendre. « Vous avez déjà tout oublié ?»« Pourquoi ?»« Enfin, cette salle où vous vivez tout le jour, ça ne vous rappelle pas la guerre ?» On était tous des amis dans ce temps-là. On n'avait pas besoin de gagner sa vie comme aujourd'hui. » À l'évocation de ce passé qui avait fait de lui un infirme, le patron du café eut un sourire à la fois attendri et triste. « Enfin, dit-il, on se défend. » Une seconde, Croiserel s'en voulut de gagner, à des fins professionnelles, la sympathie de cet homme en évoquant des souvenirs qui lui tenaient tant à cœur. Il changea la conversation, parla du temps effroyable qu'il faisait depuis 4 jours. Finalement, il demanda « Est-ce que vous connaissez, par hasard, un certain Favrin ?»« Favrin ?»« Oui. »« Comment est-il ?»« Moi, je ne le connais pas. Tout ce que je sais, c'est qu'il a acheté une petite maison rue de la Comète. »« Oui, je vois qui vous voulez dire, le grand Marcel. »« C'est cela, le grand Marcel. » « Est-ce que c'est un homme bien ?»« Très bien, » répondit avec respect le patron. « Vient-il souvent chez vous ?»« Chez moi et chez les autres. » La pluie tombait toujours avec la même violence et le vent qui s'était de nouveau levé la rabattait contre les vitres. Le commissaire demanda s'il pouvait avoir un autre café. C'était sur un ton bon enfant qu'il parlait. Il tenait à masquer le plus longtemps possible la raison de sa présence à Viroflay, car il savait trop combien rapidement se répandrait la nouvelle de son arrivée s'il avait la maladresse de se découvrir. Et dans une affaire comme celle-ci, où aucun détail ne doit être négligé, l'effet de surprise était un élément important du succès. La tempête était loin de se calmer. Croiserel ne pouvait attendre ainsi indéfiniment, d'autant plus que Favrin n'allait sans doute pas tarder à sortir. « Il faut que je m'en aille, patron. » Puis, de manière à gagner la confiance de son interlocuteur, il ajouta « Je vais justement voir votre ami Favrin. Il paraît qu'il veut acheter une Renault. J'ai quelque chose de bien, vous savez, dans mon garage. Une 10 chevaux qui a roulé 2000 kilomètres, juste ce qu'il faut pour la roder. Elle n'a plus qu'à partir maintenant, et pour rien. Le client vient de perdre sa femme. Des souvenirs sont attachés à cette voiture. Enfin, il la donnerait presque. C'est intéressant ce que vous dites. Repassez donc me voir, je vais en parler. Les deux hommes se serrèrent la main. Croiserel releva le col de son trench coat, baissa la visière de sa casquette sur ses yeux et, d'un pas désormais indifférent à la boue et aux flaques, il se dirigea vers la rue de la Comète. Lorsqu'il arriva avenue de Versailles, il tourna à gauche comme on le lui avait indiqué. 100 mètres plus loin, il prenait, sur la droite, une ruelle montante bordée de maisons en construction. De ci, de là, sous des tentes, semblables à celles des égoutiers, on apercevait 3 ou 4 maçons qui cassaient la croûte, le pouce gauche sur le fromage, le canif dans la main droite. Le long des trottoirs dévalaient 2 torrents d'une eau argileuse. Au sommet, le commissaire s'arrêta, secoua sa casquette déjà traversée. Il se trouvait au milieu d'une place sur laquelle donnaient 4 chemins, dont l'un, celui qui était dans le prolongement de la ruelle, conduisait vers les bois dont on apercevait la masse sombre à l'horizon. De 50 en 50 mètres se dressait une maison. Des planches clôturaient les terrains incultes, disséminés un peu partout. Au centre de la place, il y avait un poteau indicateur, comme on en voit dans les forêts, au haut duquel les panneaux s'entrecroisaient. Sur l'un d'eux, le commissaire lut « Rue de la Comète ». Cette rue était plutôt une impasse. En effet, elle ne menait nulle part. Elle allait à 100 600 et, au bout de 200 mètres, se perdait dans les pierres et les mauvaises herbes. Pourtant, dans les terrains qui s'étendaient devant soi, on distinguait d'autres tentes, des matériaux, et même, derrière une butte, une fumée grise montait lentement vers le ciel. À la première maison qu'il trouva sur son chemin, le commissaire sonna pour demander où habitait M. Favrin. Une vieille femme, par la fenêtre de son rez-de-chaussée, lui indiqua une maison juste séparée de la sienne par un verger. Avant de sonner de nouveau, Croiserel examinait la demeure de Favrin. C'était la typique villa de banlieue dont chaque pierre est encadrée d'un liseré de ciment. Un grillage provisoire entourait le jardin, au fond duquel se dressaient quelques arbres. Pour accéder à la maison, il fallait prendre une contre-allée parsemée de gravier, puis monter 5 ou 6 marches qui aboutissaient à un carré abrité par un auvent. Ce fut ce que fit le commissaire. Il tira un anneau. Celui-ci mit en mouvement une sonnette qui continua à tinter après que l'anneau eut été lâché. Presque aussitôt, la porte s'ouvrit et un homme, vêtu d'un costume de velours à côtes, les jambes moulées dans des leggings lassant sur le devant, les cheveux dépeignés, une cigarette éteinte au coin de la bouche, parut. À la vue du commissaire, il demeura un instant surpris, décontenancé. Il avait cru avoir affaire à quelques fournisseurs, à la marchande de journaux, et déjà, il s'était réjoui de faire quelques bonnes plaisanteries, lorsqu'un homme qu'il ne connaissait pas s'était trouvé devant lui. Rapidement, il avait inspecté la rue, avec l'espoir d'y découvrir une voiture de livraison. Mais rien. Malgré la tempête, ce visiteur était venu jusque sur le plateau pour le voir. « Vous êtes bien, monsieur Marcel Favrin ?» demanda Croiserel. « Oui, » répondit en pâlissant l'homme au legging français. « J'ai à vous parler. Pourquoi ? Qu'est-ce qu'il y a ?» Le commissaire tira son portefeuille. En l'entr'ouvrant à peine, il laissa apparaître sa carte de membre de la police judiciaire, puis, sans y être invité, il entra dans la maison. Favrin, intimidé, s'était effacé sans dire un mot. Bien qu'il n'eût même pas regardé la carte que lui avait montrée le policier, il avait compris à qui il avait affaire. Déjà, Croiserel avait posé la main sur le bouton d'une porte. « Est-ce que nous pouvons entrer là pour parler ? » demanda-t-il. Marcel Favrin, pris de frayeur, ne répondit pas. Le commissaire poussa la porte, pénétra dans la pièce. C'était une salle à manger, à buffet Henri II, à suspension, à chaises de cuir repoussées. Elle donnait à la fois sur la rue et le jardin. Par ce jour de pluie, elle avait un aspect sinistre. Il y avait, à terre, un linoléum de ton criard. Mais ni ce dernier, ni le papier tenture à ramages violets et or, ne parvenaient à égayer ce lieu clos où flottait une odeur de renfermé. Croiserel prit un siège, puis, en désignant un à son interlocuteur, dit « Asseyez-vous en face de moi. » Entre-temps, Marcel Favrin s'était ressaisi. « Mais qu'est-ce que vous me voulez ? » demanda-t-il. « Vous allez le savoir tout de suite. Tenez, prenez une cigarette. La vôtre est éteinte. » Favrin accepta, sans pourtant se départir de l'air vexé qui lui était venu peu à peu. « Enfin, on ne vient pas comme cela chez les gens !» dit-il en allumant sa cigarette au briquet que lui tendit le commissaire. Ce dernier, tout en feignant de tenir surtout à faire impression, à voir tout plier autour de lui, à passer pour vaniteux et bon bougre, n'avait pas manqué d'observer son interlocuteur. « Il a l'air trop crapule pour être un assassin, » avait-il pensé, « à moins qu'il ne soit les deux. »« Il paraît que votre femme a disparu. Est-ce vrai cette histoire ?» fit Croiserelle brusquement, en homme qui gagne la sympathie de ses interlocuteurs par le dédain qu'il a des fioritures. « Bien sûr qu'elle est vraie, cette histoire-là » répondit Favrin, soulagé de connaître enfin le but de la visite du commissaire. « Ça va faire bientôt 2 mois qu'elle est partie. Ah, la garce ! Me faire cela à moi, partir avec un amant et m'enlever mon Jeannot, ce petit que j'aimais tant ? Dieu sait quelle éducation elle va lui donner à présent. Non, je n'aurais jamais cru cela possible. Quand est-elle partie exactement ? Ah, je le sais par cœur ce jour, le samedi 9 janvier. Je suis parisien, monsieur. Quel rapport cela a-t-il donc ? Quand arrive le samedi, monsieur, c'est plus fort que moi, il faut que je retourne à Paris pour rencontrer les amis. Ce samedi-là, donc, j'ai pris le tramway et je suis parti. Ma femme était à la maison avec mon fils. Quand je suis rentré, le lundi, par le premier train du matin, elle avait disparu. J'ai cherché partout, j'ai interrogé les voisins, impossible de la retrouver. Le samedi matin, elle était encore là, vous lui avez parlé ? Naturellement. Samedi soir, vous étiez donc à Paris. Donnez-moi les noms de ses amis qui ont passé la soirée avec vous. Mais enfin, qu'est-ce que vous me voulez ? Ma femme s'en va, elle part avec un amant, et c'est moi qu'on vient embêter ? C'est un peu fort. Allez donc la chercher, elle, et laissez un honnête travailleur en... Faites attention, ne le prenez pas sur ce ton. Je ne me tairai pas, on exagère. Vous n'avez qu'à la chercher, ma femme, où elle est, et me laisser tranquille. Je ne fais de mal à personne, et je suis honnête, vous m'entendez ? On peut regarder mon casier, rien, vous m'entendez, rien. Tout le monde ne peut pas en dire autant. Le commissaire comprit qu'en insistant davantage, il ne tirerait rien de l'ex-cuisinier. Il se leva, poussa sa chaise avec brusquerie. « Marcel Favrin, dit-il, j'aimerais visiter votre maison. J'ajoute que vous êtes en droit de me le refuser. » Le grand Marcel parut ne pas le comprendre. « Vous avez entendu ?»« Oui, mais je suis chez moi. »« Je le sais bien. Faites comme vous voudrez. » Si vous avez la conscience tranquille, qu'est-ce que cela peut vous faire de me laisser jeter un coup d'œil dans cette maison ? Favrin eut ce geste de la main, ce roulement d'épaules qu'ont les fortes têtes, quand, matées, elles sont obligées d'obéir. « c'est bon » bougonna-t-il. En se dandinant, il s'approcha de la porte, l'ouvrit. « Passez, » dit-il. « Non, non, j'aime mieux que vous me montriez le chemin. » « La pièce d'où nous sortons, c'est la salle à manger. Ici, c'est l'entrée. Et là, c'est le salon. » Le commissaire y pénétra. 6 chaises de bois noir à filets d'or, un fauteuil mi-rustique, mi-bureau, imitation cuir, à gros clous de cuivre, un piano droit, visiblement en mauvais état, une console, meublait la pièce. Pas un objet personnel, pas une fleur, rien d'intime. Au mur, une reproduction de la liseuse, le portrait d'un enfant, prime d'un familistère, le poilu de Scott et de larges taches d'humidité apparaissant de-ci, de-là. Un petit lustre à 12 facettes de cristal pendait au milieu du plafond. C'était tout. « Pourquoi a-t-on enlevé le tapis ?» demanda le commissaire en examinant le parquet. « Le tapis ?» fit Favrin comme s'il ne saisissait pas. « Oui, le tapis qui était cloué ici. » Croiserelle avait en effet remarqué, le long des murs, les traces de pointe dont se servent les tapissiers. Parfaitement, il y avait un tapis, mais il était trop salissant. C'est bon en ville. En banlieue, on rentre les souliers couverts de boue. Il vaut mieux rien. Où est-il, ce tapis?
Je l'ai vendu.
À qui?
Au marché de la Porte Saint-Ouen.
Vous ne vous souvenez sans doute pas à qui?
Il y a si longtemps.
Pourtant... Est-ce avant le départ de votre femme ou après que vous avez vendu ce tapis?
Oh, avant, bien avant. C'est elle-même qui me l'a fait enlever.
Et cette vitre, comment se fait-il qu'elle est neuve?
Le commissaire ouvrit la fenêtre. À l'extérieur, le mastic de l'un des carreaux était frais.
C'est bien ce que je pensais, murmura Croiserelle. Les carreaux étaient mats, ternes, alors que celui qui avait attiré son attention avait encore le brillant d'un verre de table.
Favrin ne broncha pas.
C'est ma femme qui l'a cassé en faisant le ménage.
Mais déjà, l'attention du commissaire se portait sur autre chose. Il y avait deux fenêtres dans ce salon, par conséquent quatre rideaux. Il les examina un à un avec un soin méticuleux. C'étaient des rideaux de mousseline ordinaire sur laquelle était brodée, à la machine, une trentaine de tulipes absolument identiques. Soudain, Croiserelle se retourne.
Ce rideau, elle est là, et celui-là, ici.
Comme s'il avait affaire à un maniaque, Favrin haussa les épaules en répondant
« C'est possible ».
Ceux qui avaient amené le commissaire à faire cette constatation nécessitent une courte explication. Les rideaux se posent sur une tringle creuse dans laquelle on glisse, comme un fourreau, une autre tringle, pleine celle-là, dont un des bouts est redressé à angle droit. Ces rideaux sont fixés aux fenêtres à l'aide de vis appelées dans le monde de la quincaillerie vis-raquettes. Pour la tranquillité du coup d'œil, on pose le côté recourbé de la tringle soit à l'extérieur, soit à l'intérieur, mais toujours d'une façon semblable. Or, à la fenêtre du salon, dont justement un carreau avait été remplacé, les deux tringles étaient posées de telle façon que les côtés recourbés se trouvaient à gauche du rideau, cependant qu'à l'autre fenêtre, ils se trouvaient à droite. Croiserelle en avait conclu que le rideau qui se trouvait à présent devant le battant de la fenêtre dont un carreau avait été remplacé n'était pas celui qui s'y trouvait primitivement. En examinant les autres rideaux, il s'était aperçu que l'un d'eux était troué comme par une brûlure de cigarette. Or, c'était justement celui qui, pour l'harmonie des tringles, eût dû se trouver à la place de celui qui pendait à présent devant le carreau neuf. Le commissaire se garda de faire part de cette constatation à Marcel Favrin. Il feignit même, en tâtant la mousseline des rideaux, d'avoir été surtout préoccupé de leur qualité. Puis, il se rendit à la cuisine. Elle était minuscule. Rien de ce qu'elle contenait ne retint l'attention du policier. Pourtant, au moment de sortir, une boîte de carton à couleur vive surprit son regard. Il la prit. Elle contenait des grains, semblables à des grains de riz, mais un peu plus gros et plus léger. Croiserelle lut l'étiquette de la boîte. Elle était rédigée en anglais. Il ne savait pas très bien cette langue, mais il comprit qu'il s'agissait de grains de blé soufflés, aliment très répandu en Amérique.
« Qu'est-ce que vous faites de cela ? » demanda-t-il.
« C'était pour mon Jeannot, » répondit Favrin.
« Tiens, quelle idée ! » ne put s'empêcher de murmurer le commissaire.
Quelques secondes après, les deux hommes montaient au premier étage.
« Où est votre chambre ? » interrogea le commissaire.
Le grand Marcel ouvrit une porte. Elle donnait sur une pièce dont la conformation était la réplique de la salle à manger. À la place du buffet, il y avait un grand lit de milieu. Près de la fenêtre, donnant sur le jardin et empêchant l'ouverture du panneau de gauche, une armoire à glace. De l'autre côté, un fauteuil recouvert de reps violet. Au-dessus du lit, une applique et, pour tamiser la lumière, des pétales de sparterie rose enveloppant l'ampoule. Croiserelle ouvrit l'armoire. Il passa sa main, plus par acquis de conscience qu'avec l'espoir de trouver quelque chose, entre les draps empilés sur un des rayons. À ce moment, son regard se porta par la fenêtre sur le jardin. Celui-ci pouvait avoir au plus 400 mètres carrés. Des buissons en masquaient le fond.
« Et où coucher le petit ?» demanda le commissaire.
Favrin le conduisit dans une pièce voisine. C'était le seul endroit de la maison qui fut meublé avec quelque goût. Dans un coin, il y avait un lit divan recouvert d'une cretonne rustique. Les murs étaient tapissés d'un papier gris clair. La frise en était charmante. Elle représentait les principaux animaux, peints tous avec des couleurs très vives. Au milieu de la pièce, il y avait une chaise d'enfant, faisant corps avec une petite table, le tout sur roulette. Malgré la pluie, des rideaux de percaline jaune apportaient une note lumineuse. Avisant des jouets entassés dans une caisse, Croiserelle s'agenouilla, puis les examina un à un. Il y avait un ours, des poupées, une locomotive, un jeu de construction, des billes, des livres d'images. Une seconde durant, le commissaire ne put se défendre d'être ému. Comme le plaisir qu'avait pu goûter cet enfant, au milieu de ce petit univers, contrastait avec le décor sordide qui l'entourait. Cette rue boueuse, ce père vulgaire, cette maison humide, si tristement meublée, tout cela, l'enfant l'avait toujours ignoré. Il s'était fait un monde à lui, coloré, naïf, où il était roi. Le reste, il ne l'avait jamais vu. Soudain, Croiserelle se releva. « Qu'est-ce que cela ? » demanda-t-il. « Quoi ? » dit Favrin, sans se départir de l'air qu'aurait une femme de chambre, obsédée par la méticulosité de sa maîtresse. Le commissaire tenait à la main un objet dont il était difficile de déterminer l'usage et la provenance. C'était un morceau d'ébène ayant un peu la forme d'un capuchon de porte-plume réservoir. À l'une des extrémités, il se terminait par un pas de vis. Au milieu, une virole d'argent était incrustée dans le bois. Le tout donnait l'impression d'avoir de la valeur. C'était lourd, poli par le temps. Le pas de vis était intact. À l'autre extrémité se trouvait une petite plaque ronde, d'argent également, destinée sans doute à retarder l'usure. « Vous ne savez pas ce que c'est ?»«
Je n'en ai aucune idée, » répondit Favrin.
« Cet objet n'est pas tombé du ciel. »
« Mon fils l'a peut-être trouvé. D'ailleurs, vous voyez, c'est dans ses jouets. »
Croiserelle n'avait pas lâché cette chose étrange. Il la faisait aller et venir entre ses doigts avec cette satisfaction que donne au toucher un objet lourd, précieux et parfaitement fini. Finalement, il la glissa dans sa poche. « Allons, descendons, dit-il, je voudrais jeter un coup d'œil sur le jardin. » Malgré la pluie qui tombait avec violence, Croiserelle fit lentement le tour du jardin. De temps à autre, il s'arrêtait même et, du bout du pied, il s'assurait de la consistance du sol. « Vous avez sans doute des outils de jardinier. Où sont-ils ? » Favrin conduisit le commissaire sur le côté de la maison. Une petite cabane couverte d'un toit de tôle ondulée se dressait là. Croiserelle jeta un coup d'œil sur la pelle, la pioche, le râteau, la brouette qu'elle abritait. « Au fond, dit-il avec un sourire destiné à rassurer son interlocuteur, tout ça, ce sont des histoires de femmes. On dérange les gens pour rien, voilà la conclusion. Au revoir, je ne crois pas que je serai obligé de revenir. » Avant de gagner la petite allée de gravier, le commissaire s'arrêta pourtant une seconde. « Voulez-vous aller voir si je n'ai pas laissé mes allumettes dans la salle à manger ?» Heureux à la pensée d'être bientôt débarrassé du policier, ce fut avec un tout autre air que Favrin obéit. Mais à peine ce dernier eut-il disparu que Croiserelle leva la tête. Comme par hasard, il s'était arrêté juste sous la fenêtre du salon au carreau changé. Durant un instant, il examina avec attention le battant du volet qui, fermé, venait masquer la vitre neuve. Puis, détournant la tête, il se mit à siffloter.